culture d'Islam par Abdennour Bidar. Chers auditeurs de France Culture, je reprends aujourd'hui le flambeau de culture d'islam que m'a transmis Abdelwahab Meddeb, paix à son âme. Et je reprends aujourd'hui ce flambeau, quelle ironie tragique, dans les circonstances particulières d'une actualité douloureuse pour nous tous. Celle du massacre perpétré par des assassins qui ont prétendu agir au nom du Dieu de l'islam et pour venger le prophète de l'islam. Quelle honte, quelle infamie. Comment dire avec des mots assez forts la sidération et l'indignation que l'on peut ressentir face à ces monstres dont la barbarie est en réalité la négation même de la religion et de la civilisation de l'islam. Culture d'islam, c'est le titre de notre émission. Et il nous rappelle, de façon particulièrement cruciale et nécessaire en ces circonstances, que l'islam est culture. Culture au singulier, au sens de civilisation, d'une grande civilisation, et culture au pluriel au sein de cette civilisation. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ceci, qu'il n'y a pas d'islam là où il n'y a pas de civilisation, c'est-à-dire des femmes et des hommes à la fois civilisés et cultivés. L'islam, comme toute grande culture digne du beau nom de civilisation, est l'une des patries de l'être humain civilisé, c'est-à-dire éduqué, instruit, formé au contact des savoirs et des sagesses, humaniste, respectueux d'autrui, fraternel envers tous les êtres humains, qu'il aura appris à considérer comme ses frères et ses sœurs en humanité, sans distinction d'origine, de couleur ou de croyance. Voilà pourquoi ces monstres qui ont voulu assassiner Charlie Hebdo ne peuvent pas se revendiquer de l'islam. Leur inhumanité est le contraire radical de l'humanisme musulman. Mais alors, me direz-vous, comment se fait-il qu'ils aient pu ainsi se revendiquer de cet islam, et comment se fait-il que le monde musulman puisse être aujourd'hui l'un de ces ventres d'où peut surgir la bête immonde qui, dit-on, sommeille en tout être humain? Faut-il donc que la civilisation et la religion islamique soient à ce point en crise ou malade, disait Abdelwahab Meddeb, pour enfanter de telles abominations qui trahissent son génie? Il ne s'agit pas, en posant ces questions, d'accuser l'islam. Il s'agit d'appeler les musulmans à la responsabilité de comprendre comment et pourquoi cet islam est aujourd'hui si souvent instrumentalisé, dénaturé, non seulement par des terroristes et des extrémistes, mais aussi par des régressions absurdes, des références absurdes à une pseudo-origine de l'islam, et qui voudrait nier à l'individu le droit de penser par lui-même, qui voudrait nier à l'être humain le droit d'être libre vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de ce que la tradition et l'orthodoxie ont défini comme sacré. Des régressions qui voudraient que la femme musulmane soit enfermée dans le stéréotype du voile, des régressions qui voudraient que la femme n'ait pas les mêmes droits que les hommes, des régressions qui, dans plusieurs pays du monde musulman, voudraient limiter ou interdire la liberté de culte aux minorités religieuses, chrétiennes ou juives notamment, des régressions qui, comme ici hélas avec ce qui vient de se passer à Charlie Hebdo, voudraient interdire la liberté d'expression au motif ou au prétexte du blasphème et du sacrilège. Comment dire assez fort? Ce sera la question à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, se consacrer aujourd'hui. Comment dire assez fort que non, l'islam ce n'est pas cela. C'est de ce défi de relever l'islam de tout ce qui le défigure, dont je veux aujourd'hui discuter avec mes trois invités. Myriam Septi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste notamment de l'œuvre du philosophe et médecin persan Avicenne, Ibn Sina, qui a vécu à la charnière du Xe et du XIe siècle, et à propos duquel vous avez publié notamment en 2000 aux Presses universitaires de France un essai intitulé « Avicenne, l'âme humaine ». Antoine Sfer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, politologue, directeur de la revue « Cahiers de l'Orient », auteur de très nombreux ouvrages, trop nombreux pour qu'on les cite tous ici, mais dont on peut citer quelques-uns des plus récents. « L'islam contre l'islam », l'interminable guerre des chiites et des sunnites chez Grasset en 2012, et plus récemment encore, un livre au titre éloquent, La charia, virgule, interprétation du Coran ou imposture. Sadek Beloussif, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de médecine, chef de service en anesthésie réanimation à l'hôpital Avicenne et à Bobigny. Tiens, revoilà donc Avicenne, qui sera donc notre invité d'honneur aujourd'hui, sous les auspices duquel nous plaçons. Et vous avez appartenu pendant plusieurs années, pendant 8 ans je crois, c'est ça?
Oui.
Pendant 8 ans, à partir de 1998, au Comité Consultatif National d'Éthique, le fameux CCNE. Donc, Myriam Septi, messieurs, je vous propose aujourd'hui une réflexion en deux temps. Je voudrais d'abord qu'on soit au plus près de ce qui vient d'arriver, au plus près de ce qui vient de se passer. Je voudrais donc qu'on essaie ensemble de se livrer, avec l'émotion et malgré l'émotion, à une analyse de l'événement. À une analyse de l'événement, à une analyse de ses conséquences, et pas seulement de ses conséquences, mais aussi à peut-être déjà une réflexion sur la responsabilité à laquelle cet événement nous appelle. Mais d'abord, je vais commencer par vous poser à chacun, et je voudrais que, enfin, si vous en êtes d'accord, bien entendu, chacun réponde pour lui-même. Je voudrais d'abord vous demander de façon très simple, comment est-ce que vous avez réagi à cet événement? Et hélas, il faut le dire, nos auditeurs le savent, cet événement qui est en cours, puisque l'actualité n'arrête pas de nous présenter de nouveaux développements, de nouvelles péripéties. Donc comment est-ce que vous avez réagi, Myriam Septi?
Un choc émotionnel très fort, une surprise. La surprise est le signe de quelque chose de sérieux, de quelque chose qu'il faut interroger et très rapidement essayer de comprendre pourquoi au nom de l'islam, pourquoi de manière répétée au nom de l'islam. Et donc très très rapidement, au-delà du choc émotionnel, me dire, moi qui travaille sur des sources classiques depuis une vingtaine d'années, sur un islam humaniste, sur un islam de philosophie, sur un islam qui a récupéré l'héritage grec, qui l'a fécondé, qui l'a repensé, qui lui a redonné un nouvel essor, de cette pensée qui de nouveau a été traduite au Moyen-Âge latin, qui a été transmise donc des Grecs aux Arabes, aux Latins, donc de cette patrie qui a servi de foyer pour la transmission de la pensée, du savoir philosophique. Comment, au nom de cet islam, est-il possible de revendiquer une barbarie, une horreur pareille? Voilà, moi, la question qui m'a très rapidement interpellée.
Ce sera le fil rouge de cette émission. Vous l'avez dit, vous l'avez résumé de la façon la plus nette. Pourquoi au nom de l'islam? C'est-à-dire, comment en est-on arrivé là? Comment est-on passé, effectivement, de cet islam des Lumières à cette revendication qui, je le répète encore une fois, n'a rien en réalité d'islamique, d'authentiquement islamique. Mais comment expliquer ce grand écart? Comment expliquer l'ampleur de cette dénaturation? Alors, Sadek Belousif, je vous pose la même question de départ. Comment avez-vous réagi?
Je pense que, d'abord, avec une logique d'émotion très forte, et je me suis pris catapulté en plein, et le très mal, et le très bien. Et c'est en ça qu'il y a une sorte de schizophrénie intellectuelle qui est difficile. Bien sûr, il y a l'horreur, il y a la stupeur, on n'ose pas y croire. Et puis en même temps, il y a eu cette profondeur du recueillement. Et en rentrant de l'hôpital par le métro vers la place de la République, et qui portait si bien son nom ce mercredi soir, de voir l'intensité, la gravité, la responsabilité, en un mot, la dignité de tous ces anonymes de nous, et finalement de montrer que, au-delà de tous ces particularismes, les places de la République, il n'y avait pas des musulmans, des chrétiens, des juifs, des protestants, il y avait des hommes, il y avait des républicains, il y avait des martyrs au sens de témoins, des martyrs de la démocratie et de cette République. Et donc je me suis pris en plein finalement ces deux éléments-là, et j'ai pensé à cette si belle phrase de Camus, vivre c'est ne pas se résigner, vivre c'est ne pas se résigner. Et même si c'est difficile, même si c'est tellement chargé d'émotions, je reprends... J'essaie de me raccrocher à la culture ou à ce qui est déjà fait ou au savoir, et me revient cette phrase Edmond Rostand, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Certes, c'est la nuit, mais l'intensité, la dignité, la beauté de ce recueillement, de cette foule anonyme, digne et tellement responsable, finalement, entre ce bien et ce mal, je crois que c'est la notion de responsabilité qui émerge.
Vous dites se raccrocher à la culture, et vous avez commencé à citer Edmond Rostand. J'irais jusqu'à dire on va se sauver par la culture. Et c'est ce qu'on va commencer à faire un peu aujourd'hui ensemble.
Oui, et juste après, en fait, j'étais aussi stupéfait par l'intensité de la réaction à l'échelon mondial. stupéfait. En effet. L'Amérique du Sud, John Kerry avec son français parfait, le président Obama, stupéfait par ça. Et finalement, je crois que le monde a bien compris qu'il y a là une spécificité française, au-delà de la culture, tout à fait notable.
Quelque chose se passe en France.
Oui. Hein.
Et ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas anodin que quelque chose se passe en France. Et quand la France est touchée, on a été touché par ça justement. Quand la France est touchée, il y a quelque chose de l'humanité véritablement qui est touchée. Ça ne veut pas dire qu'on est plus humain.
Non, mais peut-être que dans le monde, il y a une logique que la France est le symbole de quelque chose de particulier. Mm-hmm. Et il y a une sorte de mondialité, d'universalité française que le monde a reconnue.
Antoine Sfer, même question très simple de départ. Comment avez-vous réagi à cet événement ?
Écoutez, j'étais effondré, je dois l'avouer. Ses amis, ses journalistes, criblés de balles, j'ai eu du mal à supporter, mais j'étais aussi très en colère. Et je redois Sodec quand il parle de rafraîchissement, quand on voit ce rassemblement républicain à la place de la République, qui tout d'un coup s'est fait spontanément. Je suis de nouveau en colère quand je vois les politiciens essayant de récupérer tout cela. J'ai envie de leur dire, messieurs, qui que vous soyez, ne venez surtout pas le dimanche manifester avec nous. Restez chez vous. Et en même temps, j'ai aussi réfléchi pourquoi au nom de l'islam, mais comme j'y travaille depuis longtemps, j'ai malheureusement une idée un peu nette et qui implique aussi dans les années 50, 60, la responsabilité occidentale vis-à-vis de tout cela. Et surtout, je me suis écrié ne pas avoir peur. Et vous l'avez rappelé, il y a eu la rue Nicolas Appert avec Charlie Hebdo, il y a Vincennes aujourd'hui avec cette école juive. Je voudrais que les Français n'aient pas peur. Et ce sursaut me laisse croire que on va gagner pas contre ce que vous avez nommé des voyeurs de l'islam, qui ne sont pas aussi fous qu'on veut bien le croire d'ailleurs, et on en parlera j'espère. Tout ça est bien pensé, tout ça est bien préparé, tout ça est bien coordonné. Mais je crois sincèrement que il faut gagner contre la peur.
Oui.
Et ce dont parlait Sodec, c'est cette merveilleuse prise de conscience.
Oui.
Alors, il faut la garder.
Par rapport à ça, quand vous dites on ne peut pas se contenter de se battre contre ceux qui ont dévoyé le sens de l'islam, il faut aussi toujours, me semble-t-il, se battre pour quelque chose.
Bien entendu. Hein. Pour cette prise de conscience.
Un combat n'est jamais, une cause ne doit jamais être simplement négative. Elle n'a pas à se chercher simplement des ennemis.
Vous le disiez vous-même d'ailleurs. Vous disiez que la France a quelque chose de particulier. Ce n'est pas la France, c'est la République. Voyez-vous, moi je suis né à l'étranger. Et la République est venue me dire, tiens, voilà les clés de la cité, ce qui est le terme, le sens du mot citoyen. Je te fais responsable de la cité, co-responsable de la cité. C'est ça ce qui est unique, c'est ça ce qui est formidable. Cette res publica dont nous avons la responsabilité, aujourd'hui on a pris conscience qu'on pouvait, nous, citoyens, nous mettre debout.
Alors, ce mot de responsabilité, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, parce qu'il y a là une question qui est particulièrement complexe. Vous l'avez évoqué, cette complexité, en disant que dans le devenir fou d'une certaine frange extrémiste de l'islam, il y a aussi une responsabilité de l'Occident. Alors, ce phénomène de la responsabilité est très complexe. Il y a probablement, au sujet du monde musulman, des responsabilités dedans et des responsabilités dehors.
Bien entendu. Hein,
on y viendra, mais seulement dans un second temps. La deuxième question que je voudrais poser à chacun, et qui est là aussi un peu, enfin, qui peut paraître élémentaire, et pourtant je crois que avant dimanche et avant la mobilisation dimanche, elle est tout à fait essentielle. Les musulmans ont-ils à se mobiliser ? Tout à l'heure, j'ai pris le taxi pour venir et le chauffeur de taxi d'origine musulmane me dit « La France compte sur nous, la République compte sur nous, compte sur nous tous ». Mais déjà, j'entends aujourd'hui des gens dire au contraire « Les musulmans n'ont pas à se sentir plus concernés que ça ». Alors, quid, Mariam Septi ?
Alors, les musulmans, c'est évidemment mon opinion personnelle que j'exprime, les musulmans en tant que tels n'ont pas à se sentir responsables. Par contre, les intellectuels musulmans, eux ont le devoir aujourd'hui, et moi c'est un devoir que je doute tout d'un coup, enfin ça date pas d'hier ni de l'événement de mercredi, ça se profile depuis quelque temps. En tant qu'intellectuelle musulmane, d'origine musulmane, de culture musulmane, je me sens responsable aujourd'hui de devoir penser, justement.
Quand vous dites les musulmans qui ne seraient pas des intellectuels n'ont pas à se sentir responsables, est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt qu'ils n'ont pas à se sentir coupables,
voilà,
mais
n'ont
responsables
pas, Ils n'ont pas de culpabilité
à intérioriser.
Oui, de même manière qu'on tient pas responsable d'actes intégristes d'autres religions, des personnes qui pratiquent tout à fait normalement, paisiblement, leur religion dans un cadre familial, dans un cadre privé, dans un cadre intime. Là, il y a quelque chose à distinguer. Il y a quelque chose à distinguer. Mais il y a, je pense, une responsabilité des intellectuels à transmettre. Il y a une pédagogie à entreprendre. Je pense que beaucoup de choses sont dues à une rupture qui s'est faite, pas seulement dans les pays musulmans, mais en Europe aussi, entre le savoir qui se fait dans nos cercles très réduits, au CNRS, dans les universités, etc., et ce que savent de l'islam ces personnes qui se sont radicalisées dans cette violence, dans cette ignorance souvent, dans une très très grande ignorance. Et je pense qu'il y a un devoir de transmission de savoir qui est important.
Vous insistez sur la pédagogie, ça me paraît très important, et pour le dire d'un mot encore plus simple, l'éducation.
Oui.
Est-ce que vous imputez ici la responsabilité, ça y est, on est sur la question de la responsabilité, de l'éducation spirituelle, de l'éducation culturelle telle qu'elle peut être transmise dans un certain nombre de familles ou de milieux?
Oui.
Oui.
Oui, je pense qu'il y a une très très grande importance. La transmission de cette religion s'est faite de manière totalement. Elle a été laissée à l'abandon. Moi, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler à de jeunes musulmans grandis ici, j'ai toujours été frappée par l'ignorance de choses fondamentales et des idées fausses qu'ils véhiculaient, et avec justement la foi de l'ignorance. C'est souvent celle-là la plus forte et la plus violente.
Bien sûr. Antoine Sfère, sur cette mobilisation.
Oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec la responsabilité. Et je vous le dis vraiment comme je le pense, Mariam. Vous êtes citoyenne?
Oui.
Donc parlons des citoyens. Nous sommes dans un pays où la laïcité prime. Donc à partir de là, je ne vois pas en quoi les musulmans ont à s'en sentir irresponsables ou coupables. En aucun cas, ni les intellectuels, ni les autres. Vous faites votre travail, vous êtes en train de transmettre le savoir. Mmh. Vous le faites en tant que citoyenne. Alors que vous soyez de foi musulmane, ça ne regarde que vous. Et que je sois de foi bantoustanaise, ça ne regarde que moi. Ce qui est très vrai dans ce que vous dites, c'est que, je n'appelle pas ça l'éducation, c'est l'instruction publique qui est en déficit. Et ça, c'est grave. Mmh. Arrêtons de parler de l'éducation nationale. Revenons à l'instruction publique. L'instruction publique qui oblige les gens sous la 3e, sous la 4e, sous la 5e République, sous la 7e, à ce que les gens aillent à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans au moins.
Alors, on peut quand même dire, Antoine Sfère, qu'il y a une responsabilité de l'école de la République, mais il y a aussi une responsabilité de l'éducation des familles, les familles.
Précisément, c'est là où je voulais en arriver. Aujourd'hui, ces jeunes qui viennent pour la plupart d'ailleurs du petit ou grand banditisme, disons-le. C'est pour ça qu'ils doivent être jugés, et pourvu qu'on les prenne vivants, ils doivent être jugés comme des impliqués, des condamnés de droit commun, c'est tout. Qui n'aillent pas chercher des idéologies et tout. Il ne faut pas leur donner l'occasion d'être soit des martyrs, qu'on vengerait, soit des gens qui vont appeler à l'émulation. Je reviens à l'instruction publique, que les parents éduquent, mais les citoyens, je ne parle pas des musulmans, que les parents éduquent et que les maîtres instruisent de nouveau. C'est tout. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Vous avez parlé de l'ignorance des jeunes. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Et à chaque fois, pourquoi il y a cette ignorance? Parce que déstructurés à un moment de leur adolescence ou de leur préadolescence, ils pensent se restructurer uniquement autour de l'islam. Mais de quel islam parle-t-on? De la mosquée où le boulanger d'une ville devient imam à sa retraite. Mmh.
Ce qui me paraît intéressant dans ce que vous dites, Antoine Fer, c'est l'idée de co-responsabilité.
Hein. Tout à fait.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est tenté de pointer un doigt accusateur sur soit la République, soit sur l'islam, en réalité, on se rend compte qu'on a tous une responsabilité dans le fait qu'une situation se dégrade.
Sadek, pour dire que qu'on arrête de demander aux musulmans de se justifier.
Je ne vais pas essayer de vous réconcilier, mais il y a un double plan et il y a un double piège. Le premier plan, c'est que la religion, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose d'intime, c'est à moi. Et en même temps, il y a une dimension publique de débat de société dans le sens le plus noble qui soit. Le double plan. Double piège parce que si je ne dis rien, eh ben je suis coupable parce que je fais silence, donc j'acquiesce toutes ces horreurs. Et si finalement je suis comme un imprécateur extrêmement véhément, ça veut donc dire que je suis bien coupable au fond puisque je prends la logique de la justification. Donc il y a ce double plan intime et ce double piège du silence ou de la vocifération. Je crois qu'on peut s'en sortir dans la responsabilité. Il y a deux termes. Je suis responsable de ce que je fais, et en l'occurrence, je suis innocent. Et il y a aussi, je suis responsable auprès d'eux, je suis comptable. Les Anglais ont deux termes pour ça, ils ont responsibility et ils ont accountability. Et c'est comme ça que l'on comprend, je suis responsable mais pas coupable. La ministre qui a dit ça, elle est responsable au sens, je suis comptable d'eux, je suis responsable auprès d'eux parce que je suis en position. Et donc là, nous devons trouver la ligne de crête, finalement, qui réconcilie ces deux éléments-là. Il y a ma dimension intime privée, et en même temps, il y a être présent dans le débat de société. Et ce débat, cette présence, me semble-t-il, elle ne peut se faire qu'en disant « je m'inscris comme étant un artisan de paix ». Et là, je n'ai pas besoin de savoir si je suis musulman, protestant, juif, bouddhiste.
Chacun ensuite peut donc se présenter dans l'espace public comme un artisan de paix au nom de convictions qui sont des convictions personnelles, etc.
C'était la logique sous Nixon qui disait « c'est la majorité silencieuse ». Elle est silencieuse, certes, mais c'est la majorité. Mais finalement, à nous de montrer la pleine responsabilité et la pleine maturité de, j'ose pas dire de l'immense majorité, de tous les musulmans de France.
Alors, Sadek, vous nous avez bien réconciliés et trop bien. Donc, je vais remettre un peu de division. Mais alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, donc Antoine Sfer, lorsque vous dites que c'est d'abord et c'est avant tout en tant que citoyen qu'on doit s'avancer dans l'espace public aujourd'hui pour défendre les valeurs de la République et montrer notre attachement à ces valeurs. Mais ensuite, et là je me situe donc du côté de ces motifs qui peuvent conduire chacun, cette fois-ci dans sa particularité, à manifester et à s'engager ou à s'investir. En l'occurrence, il y a dans cette attaque quelque chose aussi qui a été attaqué. Bon, il y a la liberté d'expression, il y a la République, il y a les droits de l'homme, il y a l'islam aussi qui a été attaqué. Et à partir du moment où, en tant que je suis un citoyen, là c'est un jeu fictif, hein, en tant que je suis un citoyen de telle ou telle confession, et en l'occurrence un citoyen de confession musulmane, je peux trouver absolument insupportable que quelque chose qui me tient aussi à cœur que cette culture dans laquelle j'ai grandi et qui m'a nourri se trouve de cette façon-là défigurée. Donc il n'y a pas d'une certaine façon à choisir entre s'engager comme citoyen et à s'engager à partir d'une conviction, puisque les deux peuvent participer à une mobilisation, à un élan d'indignation.
Bon, je suis d'accord avec vous, mais il se trouve que moi, j'ai été nourri et j'ai grandi dans cette... Je suis un chrétien venant, ethniquement parlant, venant d'Orient, et dans cet Orient, j'ai été le vendredi à la mosquée, je suis un chrétien un peu, avec beaucoup de zeste d'islam, qu'il soit sunnite ou chiite, et un tout petit peu saupoudré de judaïsme, et je me trouve très bien dans ça. Et vous avez parfaitement raison, si en tant que citoyen appartenant à une confession musulmane de vous révolter et d'être en colère parce qu'on a baissé l'islam, mais moi aussi je considère en tant que citoyen qu'on a blessé l'islam, qu'on a attaqué l'islam, mais en tant que citoyen, parce que je me sens concerné. Et c'est aussi simple que ça. Et en plus, je me sens doublement concerné parce qu'on amalgame, hélas, musulmans et arabes. Or, j'ai pas encore la tête d'un Suédois, quoi.
Ça vient, ne vous inquiétez pas, Antoine. Alors, troisième question, toujours dans ce premier temps de notre réflexion, parce que je crois que tout de suite, il faut s'en inquiéter, hein, sans attendre, celle de la récupération politique, qui nous pend au nez. une récupération politique par l'extrême droite, pour ne pas la nommer. Mais là, je voudrais qu'on essaie d'envisager ensemble deux risques qui me semblent inséparables. D'une part, cette récupération, encore une fois, quasiment fatale par l'extrême droite. Et puis, d'autre part, le risque social, non plus cette fois-ci le risque politique, d'affrontement dans les rues, d'affrontement peut-être à l'école, d'affrontement dans les espaces publics, entre des individus qui vont être mis en situation de très grande fragilité et agitation psychologique par ce qui vient de se produire. Donc comment fait-on face à ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher à la fois ce risque politique et ce risque social ? Sadek.
Un peu comme Myriam Septi, au début j'étais atterré, en stupeur. Et puis après on comprend que la solution c'est il faut parler et il faut ouvrir ça. Parce qu'on a eu en même temps, entremêlé, le moment du recueillement et le moment de l'hommage. Emmêlé. Et finalement, et c'est en ça que c'était plus beau et que effectivement le peuple, Chab, a eu une intelligence et une grande dignité par rapport à ce qu'il y a dans la cité habituellement. Et on comprend bien que le moment du recueillement et le moment de l'hommage ayant été fusionnels, maintenant la place de l'action arrive très vite. La une du Monde était le 11 septembre français. Face à une telle caractérisation, j'attends une réponse positive. Ne tombons pas dans le piège de ces différents méchants. Et la réponse positive, pour le moment, elle est correcte. Je l'attends par un surcroît d'intelligence, par un surcroît de responsabilité. Parce que, en l'occurrence, le monde entier nous regarde sur cette question.
Myriam Septi.
Oui, il y a la question que Badinter a très bien exprimée du piège politique. On a un énorme piège et évidemment, faire en sorte de ne pas y tomber. Moi, évidemment, de par ma formation, ce qui me semble, c'est justement ce que disait Sader, parler, transmettre, expliquer, que ce soit aux enfants, que ce soit sur les ondes de la radio, à la télévision, qu'il y ait que le dialogue, que le dialogue soit promu et pour éviter de tomber dans ce piège. Et on sait ce que le 11 septembre a eu comme conséquence terrible. Et j'espère qu'on va pas, que ça sera pas notre 11 septembre et qu'on ne va pas faire sombrer d'autres pays dans le chaos parce que nous, on a été touchés par le chaos et qu'il y aura l'intelligence de la raison, de la transmission et du dialogue. Voilà.
Ce qui m'intéresse particulièrement dans ce que vous dites, c'est que vous revendiquez donc cette position et cette responsabilité de l'intellectuel engagé. Alors, je ne sais pas si la formule elle-même vous convient, mais je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse. Parce que finalement, si aujourd'hui des individus, comme des gens, des personnes comme vous, qui êtes en possession d'un grand savoir sur l'islam, s'avancent dans l'espace public et participent à la discussion publique comme vous le faites aujourd'hui, bien finalement c'est bon signe. Et c'est un peu ce que disait Sadek au départ. On ne va pas dire que les circonstances aujourd'hui sont un mal pour un bien, n'ayons pas cette indécence, mais il n'empêche que dans cette circonstance grave, on s'aperçoit aujourd'hui que les intellectuels français de culture musulmane font finalement et adoptent finalement cette posture qui est constitutive de ce que la France a su produire en matière d'intellectualité, c'est-à-dire cette capacité à s'engager. Donc ça veut dire, à mon sens, que d'ores et déjà, la culture d'islam fait partie de la grande culture française. Myriam Septi.
Ce que vous dites est très juste et c'est ce qui effectivement on a été amené à sortir à descendre, voilà, redescendre dans la caverne, à sortir de notre bulle, parce que c'est vrai qu'on vit dans des cercles extrêmement extrêmement fermés. Et hier j'ai eu plusieurs échanges avec des spécialistes de l'islam, des spécialistes du Coran, des spécialistes du hadith, et tous c'est qu'est-ce qu'on peut faire.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Culture d'Islam par Abdennour Bidar.
pudeur.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Antoine Sfer me disait à l'instant, cette musique, on dirait des battements de cœur.
C'est comme ça, je l'ai ressenti en tout cas. Je l'ai ressenti et c'est formidable quand vous dites intellectuel de culture musulmane. C'est peut-être prétentieux de ma part, mais je me considère totalement un intellectuel de culture musulmane. Je vis dans la marmite depuis l'âge de 20 ans. C'est...
Comme Obélix, vous êtes tombé dans la marmite. Peut-être pas la même marmite, si.
C'est l'Astérix, quand même.
Ah, oui, il est plus malin.
Et je crois que cette récupération, il faut lutter contre, non seulement par la transmission, mais par la remise des pendules à l'heure. Prenons l'exemple de dimanche prochain, de la manifestation. Personne n'a appelé. Il faut le dire. Personne n'a été invité, il faut le dire. Et si on prétend qu'on n'a pas été invité, c'est qu'on n'avait pas envie de venir. Alors que ceux qui n'ont pas été invités et qui en prennent prétexte disent et soient honnêtes et disent tout simplement « nous n'avons pas envie de venir ». C'est tout. Et je crois que c'est très clair. Mmh. Personne n'a été invité, ce sont, et ça dès que le rappeler, c'est une spontanéité merveilleuse de citoyens. Et il faut continuer, quelle que soit la foi à laquelle on appartient, ou la non-foi qu'on a choisi de ne pas avoir, quel que soit le parti politique pour lequel on milite ou les croyances politiques que nous avons, aujourd'hui, c'est réellement la prise de conscience et le sursaut. Ne le gâchons pas par des politiciens qui ont envie d'exister.
Alors, je prends la balle au bon. Les citoyens français n'ont pas besoin d'attendre que leur chef politique leur dise d'aller manifester. Bravo. Mais alors, ça va plus loin. 3 points de suspension. Les musulmans n'ont pas besoin d'attendre que leur chef religieux leur dise d'aller manifester.
On est bien d'accord.
Et oui, mais ça je pense que c'est quelque chose qui doit être thématisé. Hein, c'est-à-dire que on l'entend déjà dans l'actualité depuis mercredi, cette fameuse question qui revient comme un leitmotiv. Qui doit parler aujourd'hui au nom de l'islam ? Je crois qu'il est temps qu'aujourd'hui on dise, alors c'est une proposition que je vous fais, mais que les musulmans n'ont pas besoin de maîtres de religion, de chefs religieux qui leur diraient quoi faire. Ce qui pose la question à l'arrière-plan de la validité ou du caractère obsolète de la notion de représentation. Représentation de l'islam, représentation des musulmans de France, comme s'ils étaient encore des enfants, des petits-enfants ou des grands-enfants qui sont dans une situation d'infantilité, d'immaturité par rapport à leur culture et à leur religion. Sadek.
Oui, mais bien sûr, il n'y a pas de contrainte en religion. Bien sûr, il n'y a pas de pape et il n'y a pas d'représentant officiel qui va me dicter. Il y a ce monothéisme absolu qui fait que je suis tout seul avec mon créateur. Mais il n'empêche, je crois qu'il faut pour toutes les religions oser la question du risque de l'herméneutique. Et pour le Coran, comme pour la Bible, nous avons un texte. Alors, je ne rentre pas dans la controverse créée ou incréée, mais nous avons une vraie disputation théologique au sens religieux du terme, pour dire que ces textes, ils sont à la fois fermés et ouverts. Et que nous devons avoir, c'est même pas la responsabilité, c'est même pas le droit d'aller dans cette logique d'exégèse. C'est un devoir, j'ai un devoir de faire fonctionner ma raison et d'aller comprendre. Et c'est finalement que, en faisant comprendre, dans une double logique, à la fois religieuse, mais aussi politique, que je vais recevoir ce texte à la fois comme intangible...
Vous parlez de quel texte ? Vous parlez du Coran, pour que ça soit clair pour nos auditeurs.
Du Coran. On parle du Coran. Le texte à la fois comme intangible et à la fois devant être réinterprété par chaque génération à l'aune de ce que j'ai pu comprendre pour avoir une vraie transmission.
Ce que, dans la culture musulmane, on appelle les portes de l'ijtihad ou la réouverture des portes de l'ijtihad. Alors, je fais le lien de façon explicite avec la question que je vous posais, parce que pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers de ces questions, ça doit être clair. Ce que vous dites, c'est que les musulmans aujourd'hui, les femmes et les hommes de culture musulmane, n'ont pas à attendre de leur dignitaire religieux des interprétations du Coran qui seraient imposées à la masse des croyants, mais qu'ils peuvent peut-être et qu'ils doivent peut-être prendre la responsabilité d'avoir le rapport au Coran et le rapport au-delà du Coran, le rapport à la tradition, à la culture qui est le leur, qui correspond à leur propre choix. Est-ce que je vais dans le sens de ce que
le
vous...
Le vrai leadership, c'est pas celui qui s'impose. Le vrai leadership, c'est celui qui devient naturel parce que je vais aller dans un débat contradictoire ou pas, dans une logique de démocratie. C'est essayer d'avoir une, non pas un combat frontal, mais d'avoir une alliance objective, tout simplement pour essayer de comprendre. Et par rapport à mon compagnon d'humanité, de m'aider, de me frotter à son propre cerveau pour essayer de comprendre mieux. Il y a des éléments... Cette logique me sens dans la complétude, dans le fil directeur de notre obligation en tant qu'homme. Parce qu'en tant qu'homme, nous avons également une responsabilité particulière par rapport à Dieu.
Alors, par rapport à Dieu, par rapport à tout ce qui nous sollicite intellectuellement, et là, en l'occurrence, l'objet Dieu, hein, d'ailleurs, que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, c'est une magnifique proposition intellectuelle, l'existence de Dieu, qui devrait savoir exciter toute intelligence, toute conscience, toute raison humaine.
Enseignant Iqbal, à voilà. La suite de Bergson.
Alors, Mohamed Iqbal fait référence à une de mes marottes intellectuelles. Antoine Sverre.
Juste pour revenir à la formulation que vous avez utilisée, je trouve qu'elle est formidable. Dans la mesure où vous êtes en train de nous expliquer que Moïse aurait libéré l'homme de l'esclavage, Jésus est venu le mettre debout et Mohamed l'a rendu responsable. Autrement dit, il n'avait plus besoin d'intermédiaire entre lui et son créateur. C'est ça ce qui est formidable. C'est qu'aujourd'hui, chaque musulman est appelé à faire son propre... Je dis, puisqu'il n'y a plus de calife, il n'y a plus de sultan, il n'y a plus de pouvoir politique pouvant rouvrir les portes de l'ijtihad. Et je trouve que c'est une chance pour l'islam, une chance qu'a trouvé d'ailleurs, et dans laquelle sont engouffrés, non seulement les soufis mystiques dont on parle, mais puisqu'il y a deux grandes voies de soufis sociétales, quasiment, à la fois en Égypte et en France. Mmh. Et c'est ça ce qui est merveilleux.
Mmh. Antoine Sfer, je suis particulièrement sensible, je vais donner la parole à Mariam Septi sur cette question, à ce que vous dites de la complémentarité des monothéismes et des monothéistes.
Ah, mais totalement.
Je crois qu'aujourd'hui, Mariam Septi le disait, on a besoin d'éducation et nos enfants ont besoin d'éducation. Est-ce que nos enfants, qui sont de telle ou telle origine monothéiste, savent qu'il y a une fraternité d'Abraham?
Oui.
Et que tous les monothéistes sont fils d'Abraham? C'est quelque chose d'élémentaire, mais je crois qu'il gagnerait à être dit et enseigné de la façon la plus belle aujourd'hui. Alors, Mariam Septi.
Simplement pour revenir sur ce que disaient Sader et aussi Antoine sur le rapport avec le Coran et aussi relier ça avec la question de l'enseignement. Je voulais parler d'une figure comme celle de Abdelkrim Sourouche, l'Iranien, le réformiste, qui est très important, qu'on ne connaît pas, dont on ne parle jamais, et qui lui justement vient dire aux musulmans, il y a la possibilité de penser l'homme dans son rapport direct avec son Dieu, qu'il redéfinisse son rapport à la religion comme un rapport d'intériorité et non plus d'extériorité, que l'islam soit pensé comme un système éthique et non pas un système politique. Sourouche est exilé aux États-Unis, on n'en parle jamais, on nous présente toujours les mêmes figures. Toujours les mêmes figures de radicalistes qui nous sont renvoyés à la figure et qui par miroir deviennent les idoles de ces jeunes, exactement. Mais ces figures très très importantes. Et ce que dit Sourouche finalement, c'est revenir à un fondement de l'islam. Il y a un fondamentalisme intelligent, pas un fondamentalisme ce fondamentalisme de l'âge d'or qui serait de revenir à l'époque des califes bien guidé. Donc il y a une ouverture intellectuelle extrêmement importante dans les pays musulmans. Il y a Sourouche, il y a Abdelmajid Sharfi, il y a Fazlur Rahman, il y a Mohamed Mahmoud, et personne n'en parle jamais.
Il y a le Syrien aussi.
À une réserve près sur l'expression fondamentalisme intelligent. Je ne suis pas certain qu'elle
soit
heureuse.
Non, c'est peut-être... Hein oui, non. Oui. Mais c'est-à-dire que Sourouche propose de revenir à des fondements, à des fondements qui sont des fondements d'ouverture et...
Alors, vous voyez la difficulté à laquelle on est confronté. Je suis dans le studio là, de France Culture et en même temps qu'on est en train de parler d'Abdelkarim Sourouche, hein, ce persan qui est aujourd'hui un des intellectuels lumineux de l'islam et de la culture d'islam, eh bien, je vois sur les écrans que la prise d'otage est en cours à Vincennes. Et donc, c'est ça qui est très difficile pour nous, c'est que en même temps, nous sommes dans l'événement et en même temps, nous avons à penser l'événement. Il est évident que dans une circonstance pareille, on ne pourra pas dire le sens de ce qui arrive. C'est trop tôt et on est encore trop dedans. Néanmoins, on fait déjà ce premier effort pour prendre un peu de distance, pour prendre un peu de recul, pour aider, je dirais, tout le monde à essayer de garder un peu la tête froide autour de ces questions. Et donc, je voudrais que dans un second temps de cette émission, parce que l'heure tourne, on approfondisse un peu. Hein. Et en l'occurrence, je voudrais là encore recommencer en vous posant une question très simple. Myriam Septi a commencé d'y répondre avec Abdelkarim Sorouche. En quel sens, pour chacun de vous, l'islam est-il culture ? C'est-à-dire, en quel sens, pour chacun de vous, l'islam est-il synonyme de culture, matrice d'humanité ? Quelque chose qui nous rend plus humains. Qui veut commencer ?
Moi, je dirais...
Allez, Antoine.
D'une manière très prosaïque, je ne suis pas un scientifique. J'essaie de transmettre, j'enseigne. Et je dis simplement une chose, c'est... La culture islamique que j'ai connue, que j'ai vécue dans mon pays natal, faisait en sorte qu'il y avait une approche de l'altérité qui était naturelle. Je m'explique, il était normal que mes camarades musulmans aillent à la messe tous les jours avec nous. Il était normal que j'accompagne mes camarades musulmans à la mosquée le vendredi. C'est vrai que c'était pas innocent, à 14 ans, on voulait draguer aussi un peu, mais c'est ce qui nous a obligés, d'une manière ou d'une autre, à savoir à quoi croyait l'autre. Oui. Et donc, en sortant de la mosquée, de la synagogue ou de l'église, l'autre n'était plus un étranger, il faisait partie de nous. Et je trouve que c'est tellement vrai que je le sens, que je le pense, que j'ai gardé des amitiés extraordinaires aujourd'hui, des discussions aussi, comme le disait Sadek, des débats parfois très durs et tout. Et plus il y avait de débats, plus il y avait cette reconnaissance de l'autre en tant que tel, dans son altérité, et qui vient de la connaissance. Mmh. Vous parliez de la transmission, vous avez mille fois, un million de fois raison. Nous sommes dépositaires de ce... peu de savoir que nous avons, c'est à nous de le transmettre. Ma fille de 16 ans, Anna, qui m'appelle le jour du drame de Charlie Hebdo, qui me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Je lui dis « Je suis effondré. Mmh. » Elle me dit « Moi aussi, je suis en train de pleurer, mais donne-moi des arguments. Mmh. » Elle est en première, je lui ai expliqué l'histoire, un peu d'histoire, pour bien comprendre d'où vient cette violence, d'où vient ce rejet de l'autre, d'où vient cette bêtise, cette bête dont vous parliez vous-même, qui sort de chaque homme. Eh bien, je crois que c'est là notre rôle. Oui, oui. Je ne sais peut-être pas en parler aux enfants, oui, oui. Mais en tout cas, j'ai su, semble-t-il, susciter des questions. Oui. C'est merveilleux.
Ce qui me frappe dans ce que vous dites de l'altérité, donc le fait ou l'impression, le fait ou l'impression que l'autre est un étranger, c'est que je trouve que notre rapport à l'altérité aujourd'hui est très primitif. Il est très primitif parce que l'autre est projeté dans une altérité dont on part du principe qu'elle est complètement et radicalement différente de ce que l'on est. Et ça vaut pour tout le monde. Hein, je le dis, ça vaut pour tout le monde.
Plus.
Voilà. Alors qu'en réalité, dans l'altérité, il y a aussi de la proximité.
Oui.
Et puis il y a aussi la possibilité, parce qu'il y a effectivement de l'altérité, d'un enrichissement. L'autre, parce qu'il est différent, peut m'apporter quelque chose. C'est l'expérience dont vous avez témoigné, Antoine Sfer. Sadek.
Sur la culture, s'il y a une culture d'islam, moi j'ai envie de dire qu'il y a le mélange d'une logique de pudeur et une logique d'honneur. Pudeur, honneur. Et osons le mot, une longanimité, puisqu'on est sur France Culture. Dans cette pudeur et puis honneur, finalement, il y a de l'humilité. Et l'humilité, avec cette altérité, il y a la foi, bien sûr, mais il y a le doute. La foi, elle est consubstantielle du doute. Il n'y a pas d'humanité s'il n'y a pas d'altérité. Je vais accepter de me mettre en vulnérabilité parce que je suis vulnérable par rapport à l'autre. Et je vais aussi reconnaître sa propre vulnérabilité. Donc je crois que se mettre sous la logique d'une discussion et d'un regard mutuel avec un véritable dialogue, c'est cette logique-là. Et le deuxième élément qui me semble vraiment peut-être caractéristique de cette culture d'islam, si elle existe, et qui englobe bien sûr pas seulement les musulmans, c'est en forme de... C'est ces deux hadiths qui étaient cités souvent par Jacques Berck.
Donc les hadiths des paroles du prophète, voilà. Rapportés par la tradition.
Et un de ces compagnons qui demande au prophète sur quoi baser mes jugements, et le prophète répond sur le Coran. S'il n'a rien précisé, sur la sunna, sur la tradition. Et si elle n'a rien dit, sur l'ijma, sur le consensus des compagnons. Et s'ils n'ont rien dit, alors sur ta propre raison. Donc c'est une responsabilité particulière. Et le deuxième hadith est finalement de la même aune. Le prophète qui dit, tu es venu me demander en quoi consistait le bien. Oui, lui répondis-je. Et le prophète dit, le bien, c'est ce qui met ton âme en paix. Le mal, au contraire, c'est ce qui revient sans cesse à ton esprit, même si les gens que tu consultes à ce sujet t'autorisent à le faire. Ça veut dire que je suis bien dans ma propre responsabilité individuelle de personne. C'est une liberté, mais la liberté, c'est une maîtresse exigeante. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est difficile à suivre.
Et responsabilité. Sadek, vous citez un hadith, permettez-moi de citer un verset du Coran. Alors pardon d'avance, évidemment, il est un peu sorti de son contexte. Et puis, je sais très bien qu'il ne suffit pas de citer le Coran, tout est affaire d'interprétation. Néanmoins, là, on a un beau verset qui, pour moi, est synonyme de culture d'islam. Je lis la traduction qu'on donne généralement, qui est la plus simple. La bonne et la mauvaise action, la bonne et la mauvaise action ne sont pas du tout équivalentes. Rends le mal par le bien et tu verras ton ennemi devenir ton meilleur allié. C'est dans une sourate qui a pour titre, en français, c'est le titre classique, les versets clairement exposés. Voilà, c'est le verset 34. Alors, Myriam Septi, en quel sens pour vous l'islam est-il culture ?
Une esthétique particulière, extraordinaire, qui a enrichi l'humanité. Et puis, elle a pour moi un génie propre, un trait propre, qui est le soufisme. Le soufisme qu'on a oublié, qui moi, dans un pays comme le Maroc par exemple, a occupé une place très importante, même sociale aussi, qui a été petit à petit abandonnée. Et je pense qu'un des génies propres de cette culture, c'est je sais plus qui en parlait tout à l'heure, peut-être Antoine, le génie du soufisme, la personne d'Ibn Arabi, ce rapport qui a été posé entre Dieu et l'homme, et aussi toute une esthétique qu'il génère, pour moi fait partie est un des génies propres de cette culture.
On aura l'opportunité dans les semaines qui viennent ici dans Culture d'Islam de parler du soufisme qui était, je le rappelle, l'un des derniers mots d'Abdelwahab Medeb. Juste, si vous le permettez, Myriam, donnez-nous un exemple de ce qui est pour vous ce génie peut-être toujours pérenne du soufisme, qui serait un des lieux à partir desquels eh bien, une lueur de lumière, une lueur d'espoir pourrait venir du côté de l'islam.
Le face-à-face avec Dieu, le face-à-face absolu avec Dieu, l'homme qui se tient face à Dieu et qui...
Comme son égal ?
Comme son égal, c'est-à-dire Dieu est en lui et Dieu le remplit, le remplit complètement. Et cette liberté face à ce que la religion, à la religion normative, qu'on retrouve chez tous les soufis et qui leur ont d'ailleurs valu souvent d'être persécutés, d'être même tués parfois, cette idée que ce n'est pas dans la normativité que se réalise la foi, la pleine foi. Et ça, c'est quelque chose qui était important, qui était populairement inscrit. Récemment, j'étais visiter une zaouïa au Maroc, les femmes étaient sans voile sur la tête. Et ça ne gênait personne, parce que ça, c'était il y a 10 jours. Le soufisme, par essence, est ouvert aux femmes, ouvert aux fous, ouvert à la différence, ouvert aux étrangers. On peut être de n'importe quelle religion et se considérer comme soufi, et vous êtes accepté tel quel par des maîtres soufis.
Donc, même si vous êtes fou.
Même si vous êtes fou.
Fou de Dieu.
Fou de Dieu.
Fou de Dieu, ça peut être... Attention, ça peut être...
Et donc, je crois qu'il y a cette voie importante de l'islam que l'islam politique a occulté et qu'il est temps aujourd'hui de retrouver.
Laissez-moi rappeler juste une phrase d'Ibn Arabi. Il s'est assis à ma table et je l'ai haï parce qu'il n'était pas de ma foi. 2 heures plus tard, après avoir devisé avec lui, il emportait une partie de mon cœur. C'est tout dire. C'est ça l'altérité retrouvée. C'est ça l'altérité de proximité qui est retrouvée. Et je trouve que malheureusement, aujourd'hui, les musulmans, notamment en France, les jeunes, ignorent tout de cette culture, de ce patrimoine,
tout à fait.
Malheureusement. Et c'est dévoyé complètement par l'islam radical politique.
Alors, plutôt que de dire fou de Dieu, je dirais fou de fraternité,
hein,
et amoureux de l'autre dans son altérité. On continue cet approfondissement, parce que l'objet aussi de cette émission est de ne pas se laisser hypnotiser ni par l'événement, ni fasciner, ni terroriser par les terroristes. Et donc, je crois qu'il est particulièrement important aujourd'hui de parler de l'islam comme culture. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, on a ce sentiment persistant et désagréable que l'islam, avec un grand I comme religion et comme civilisation, n'est pas toujours à la hauteur de lui-même. N'est pas toujours à la hauteur de lui-même. J'ai dit dans mon éditorial, il n'est pas toujours à la hauteur de son génie et à la hauteur justement de cette culture sublime que Mariam Septi vient à l'instant d'aller chercher du côté du soufisme. Pourquoi
parce
donc
que, si vous permettez, je voudrais revenir juste un peu à l'histoire contemporaine. Parce que l'Occident, dans les années 50, a choisi, souvenez-vous, de s'allier stratégiquement avec ceux qui ont une lecture littéraliste du Coran, avec une lecture archaïque du Coran, au lieu de regarder un peu ce qui se passait ailleurs dans cet espace arabe, qui ne représente, il faut le dire, que 16% des musulmans dans le monde aujourd'hui. Et à partir de là, c'était au moment où dans cet espace arabe s'installaient alors les occidentaux disaient des ruptures de représentativité, ce qui en français normal veut dire des dictatures militaires. Et il y avait un seul endroit où on pouvait s'exprimer, qui était le lieu de culte, donc la mosquée, qui était déjà aux mains des imams séouliens, non pas par des arguments dogmatiques, mais par des arguments sonnants et trébuchants. Et c'est à partir de là que les sociétés arabes ont commencé à être vérolées par cet islam politique. Et on a vu un peu ce que ça a donné. De plus en plus, les actrices de cinéma en Égypte, qui étaient quand même le Hollywood du cinéma arabe, se faire jeter de l'acide sur le visage. On est tombé au plus bas. Et ce n'est pas l'islam qui n'est pas à la hauteur de son génie. Ce sont certains musulmans qui ont instrumentalisé la religion et la foi musulmane qui n'ont pas été à la hauteur du génie de l'islam.
Alors, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, Antoine, c'est qu'on est vraiment là en train de répondre à cette question qui est notre fil rouge, la question de la responsabilité. Ouais. Hein. Et en l'occurrence, vous pointez le doigt sur une co-responsabilité et même sur une complicité partagée.
Oui, mais
une complicité partagée entre, d'une part, l'Occident et puis, à l'intérieur du monde musulman, la responsabilité, cette fois-ci, il faudrait dire vraiment la culpabilité de l'argent et du dogmatisme saoudien.
Et Qatari.
Entre autres, mais notamment.
Qatari.
Et en même temps, il y a une logique européenne. Mais en même temps, il y a une logique européenne qui est importante. Alors, je ne sais pas si l'islam est une chance pour l'Europe. Enfin, je le crois, ou je l'espère. Mais je suis sûr que l'Europe est une chance pour l'islam. Et que ça se passe, ces événements, en Europe, que ça se passe en France, alors que finalement, on a une compréhension peut-être plus intellectuelle que ce qui peut se faire ailleurs dans le monde, est un événement sur lequel, je crois, il faut que l'on se saisisse et que l'on construise. Moi, je travaille à l'hôpital Avicenne, en Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Il y a 50 nationalités, 40 langues. Ça se passe très très bien, parce qu'il y a un respect mutuel. À Avicenne, tout le monde se respecte et tout le monde respecte les religions. Parce que je crois qu'à Avicenne, chez les pauvres, en Seine-Saint-Denis, on a tous bien compris le caractère fondateur et protecteur d'une laïcité bien comprise. Et peut-être que ça, c'est une des réponses que la France peut donner, bien sûr pour nous, mais au-delà de cela, en Europe et dans le monde, comprendre comment ce mot de laïcité, ce beau mot de laïcité, est peut être imaginé comme tellement spécifique qu'on a du mal à le traduire en anglais. Vous nous ce dites... qui permet de nous défier des communautarismes, voir ce qui se passe au Canada, aux États-Unis.
Il est intraduisible dans toutes les langues du monde.
Secular, sauf, lay country.
Sauf en arabe, où les jeunes réunis en congrès, j'y étais dans les années 60, au Caire, on a dit, puisqu'il n'y en a pas dans le monde arabe, on va prendre le mot de savoir, le ilm. Et on va trouver le superlatif, d'où est né l'almaniya, exactement, la laïcité. Voilà. Et quand on dit à un islamiste un peu givré qu'est-ce que c'est que l'almaniya, il dit ça n'existe pas en arabe.
Alors
que maintenant c'est dans tous les dictionnaires.
C'est le chemin du vivre ensemble.
C'est très important ce que vous dites là, Sadek, pour notre vivre ensemble français et au-delà du cas français. C'est-à-dire que la laïcité est l'outil qui permet aux individus de toute croyance, qu'ils soient croyants ou non croyants, de vivre ensemble de façon en concorde et en harmonie. C'est très important parce que, par rapport à la mauvaise réputation que s'attire parfois la laïcité, que certains accusent d'être l'ennemi du religieux, vous dites non.
C'est la raison pour laquelle ça en concorde absolument. C'est le moyen de pouvoir vivre une religion, des religions apaisées, mais ça peut aussi être un élément social extrêmement important. Moi, j'ai eu la grande chance auprès de vous de pouvoir travailler pendant 3 ans au Haut Conseil à l'intégration, où ces questions de laïcité étaient vraiment au cœur. Il me semble qu'une des réponses que le politique devrait / pourrait prendre est une réinterprétation et une reconnaissance de l'importance du caractère apaisant de cette dimension laïque. Et quand je dis reconnaître, je le prends à la suite d'une dimension biblique, comme dit mon très bon ami Alain Cordier. Reconnaître, c'est connaître. Mmh. Et connaître, c'est aimer.
Alors, l'islam et la Bible, ou l'islam et la laïcité, ça fera sans doute l'objet d'émissions entières. Hein, donc, on va pas trop s'aventurer dans ces directions-là. Je voudrais qu'on revienne, l'émission arrive bientôt à sa fin, je voudrais qu'on revienne sur l'actualité à partir d'une question précise. Comment éviter qu'aujourd'hui, le climat dans lequel ces attentats nous ont installés, malgré tout, ne conduise pas une majorité de nos concitoyens à faire l'amalgame entre islam et islamisme. Quelle est la responsabilité des uns et des autres ? Et je reviens sur cette notion de responsabilité.
Nos concitoyens, quelle que soit leur religion, ils voient bien que leurs camarades de travail, quelle que soit sa religion aussi, eh ben, il vit en paix, il veut pouvoir travailler, avancer, aimer ses enfants. Et puis voilà, nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit, disait Khalil Gibran. Et nous sommes dans une nuit terrible, mais il y a une pépite de lumière, suivons-la.
Merci Sadek. Meriem, comment éviter que demain, toutes les confusions continuent ou s'intensifient autour de l'islam ?
J'aimerais avoir l'optimisme de Sadek, mais j'avoue que moi, je crains effectivement. Oui. Je crains les amalgames, je crains la haine qui allume la haine. Et je pense que là, les médias ont un rôle important. Je pense qu'il faut parler, qu'il faut que dans des pas, peut-être pas seulement sur France Culture, mais dans des médias avec des audiences différentes, qu'il y ait une responsabilité des médias, justement, pour ouvrir, pour interroger, pour amener les auditeurs, pour amener tous les non-spécialistes, enfin toutes les personnes qui regardent la télévision, par exemple, à regarder les choses autrement. Il y a vraiment une responsabilité aujourd'hui qu'il faut prendre. Absolument. Et si elle n'est pas prise, moi je crains, je suis assez pessimiste. S'il n'y a pas une responsabilité réelle assumée des médias aujourd'hui, je suis assez pessimiste. Je serai pessimiste.
Bon, allez, on va dire que l'optimisme est une responsabilité. Antoine Sfer.
Mais moi je suis entre les deux, si vous permettez. Vous me faites penser, Myriam, à cet oiseau qui fait des allers-retours entre la mer et le feu. Et il y a les grands animaux qui lui disent vraiment, tu penses que tu vas éteindre le feu avec ta goutte ? Et lui répond, je ne sais pas, mais je fais ma part.
Voilà.
Alors, faisons-la ensemble. Je crois que si on fait notre part, il ne s'agit pas d'être optimiste, il s'agit de se battre. Aujourd'hui, nous sommes en guerre contre l'ignorance, et ça suffit.
Nous sommes entre la mer et le feu. Merci beaucoup Antoine Sfer, je vous propose que ce soit notre conclusion provisoire. Merci beaucoup Meriem Septi d'être venue. Merci beaucoup Sadek Belloussif. Merci beaucoup Antoine Sfer. Nous avons essayé de réfléchir aujourd'hui à cette actualité douloureuse qui nous mobilise tous et qui ne doit surtout pas nous décourager. C'était Culture d'Islam par Abdennour Bidar, à la coordination Dominique Compétissa. Prise de son Bruno Gagnère et à la réalisation François Connac. Thank you.